Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous ce matin, dans ce beau dimanche du 26 juillet 2026. Pendant tout un temps, j'ai résisté aux séries télé. Je me disais, moi je veux voir qu'un film en 1 heure et demie. Et puis, progressivement, depuis 2-3 ans, je me suis laissé prendre au jeu. Elles sont bien faites, ces séries télévisées. Surtout, vous avez remarqué que à chaque fin d'épisode, il y a un moment crucial. Je pense qu'en anglais, c'est du cliffhanger. On est sur la falaise, en suspension, là, et il y a un suspense incroyable, et ça nous fait rester jusqu'à 1h, 2h du matin pour voir 5 épisodes d'un coup, puis après, on va se coucher quand même. Aujourd'hui, on parle en série, on communique en série télé. À l'époque, Jésus parlait en parabole, qui était un genre littéraire, ou un genre de rhétorique très connu à l'époque. Jésus n'a rien inventé en parlant en parabole. Il y avait les machals en hébreu, ou les parabolés en grec, qui comparent des petites histoires bien faites, et surtout des histoires avec un petit truc qui intrigue, un petit truc qui étonne, peut-être pas un cliffhanger, mais voilà, on est quand même parfois un peu choqué, interpellé, interloqué. Et j'ai choisi une de mes paraboles préférées, celle du commercial, avec 3 petits points, je laisse le suspense, et que nous allons lire ensemble. Jésus dit encore à ses disciples, la parabole commence, un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Remets-moi les comptes de ta gestion car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » Le gérant se dit, « Que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler, c'est trop dur. » Et mendier, c'est pas beau. Faire la charité, c'est quelque chose que je peux pas. Travailler comme ouvrier agricole, je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier, j'en avais honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. Là-dessus, il fait venir un à un tous ses débiteurs ou tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 40 hectolitres d'huile d'olive, » lui répond celui-ci. « Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant. Assieds-toi là, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. 2 fois moins. Ensuite, il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? 500 sacs de blé, prends la reconnaissance de dette, reprends le gérant et inscris-en 400. Le maître loua la prudence de son gérant malhonnête. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus prudents dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Et moi, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Il y a un peu de suspense, vous avez peut-être perçu l'élément déstabilisant, on va y venir. Alors pour résumer, on est en présence d'un commercial véreux, d'un type qui se remplit les poches aux frais de la société, fausses factures, détournement de fonds, commissions. Mais un jour, on découvre le poteau rose, le patron intervient, il règle ça en interne, mais il licencie le commercial. Alors, le commercial doit encore présenter les livres pour que le patron puisse faire la transition, mais il est mis dehors. Et comme il s'agit d'une faute grave, il ne va pas toucher le chômage, comme on disait. Alors, que fait-il? Eh bien, il fait comme le fils prodigue. C'est-à-dire, quand il animait le troupeau de cochons, vous vous souvenez? Il rentre en lui-même. Et le commercial véreux rentre en lui-même. Il réfléchit et il a une idée, non pas de trouver un autre travail sur le marché de l'emploi, mais une combine. Et il va chez les clients de son patron, qui ont des dettes envers lui, et il leur dit, écoute, tu dois beaucoup d'argent à mon patron, 3800 litres d'huile d'olive, une quantité astronomique, moi j'ai calculé, à 10 euros le litre d'huile d'olive aujourd'hui, ou 12, 14, hein, ça fait quand même 38 000 balles. Et c'est une somme conséquente, eh bien écoute, écris la moitié. Tu dois plus que la moitié, on va s'arranger, t'inquiète, j'ai l'habitude de faire défaut en écriture. Le débiteur hésite, enfin, n'hésite pas beaucoup, et signe des deux mains, il fait aussi une belle affaire, lui. Et il n'est pas trop regardant. Et puis, notre homme, notre commercial, fait la même opération comptable avec un deuxième débiteur, si bien qu'il tisse quelques relations intéressées qui pourront servir quand il sera effectivement à la rue. Les débiteurs seront là, bien obligés de lui renvoyer l'ascenseur en l'accueillant chez eux. Ils ne pourront pas faire autrement parce qu'ils sont un peu complices dans l'histoire, d'ailleurs. L'intendant pourra donc jouer les parasites et revisiter « Viens chez moi, j'habite chez un débiteur. » Et chez l'un, chez l'autre. Ça me fait penser, et je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire, mais dans les années 90, est-ce qu'il y a des Italiens ici, d'origine italienne, avec Bettino Craxi, qui était Premier ministre italien ou président du Conseil. Lui et tous les députés socialistes étaient sûrs de perdre les élections qui arrivaient. Et donc il s'est dit, il faut que j'arrange ça. Et il s'est bien arrangé. Ils ont voté des lois pour leur assurer un avenir post-député tranquille. Bettino Craxi, s'est arrangé pour recevoir une prime de départ de 300 000 euros. C'est quand même pas mal. Et une retraite mensuelle de 6 000 euros. Et c'est pas mal pour quelqu'un qui perd les élections. Et il a quand même réussi aussi à avoir le coiffeur du Parlement à vie. Et aussi tous ses voyages en train ou en avion jusqu'à la fin de ses jours. Alors, l'histoire, on ne dit pas, mais il a dû fuir quand même en Tunisie, parce qu'il y a eu l'opération main propre, et il est mort en exil en l'an 2000. Mais voilà, ils ont réussi à s'arranger pour réinventer le principe du « qui perd gagne ». Mais à l'époque, quand on interrogeait l'homme de la rue en Italie, il répondait, et je cite, « Mais c'est scandaleux !» Vous voyez, là, c'est scandaleux. On a payé tant qu'ils étaient au Parlement, alors qu'ils ne faisaient rien du tout. Maintenant, il faut payer pour qu'ils s'en aillent. Mamma mia! Et ça, c'est la réaction du citoyen normalement constitué. Mais si je vous disais que moi, j'admire profondément Bettino Craxi, si je vous disais que je le trouvais véritablement exemplaire, bravo Bettino, bravissimo, excellente Bettino, vous seriez un petit peu mal à l'aise. Vous commenceriez à vous sentir gêné pour moi, voilà que le batave importé fait dans la provocation. Et on est un peu gêné pour la même raison quand Jésus va dire dans sa parabole une phrase un peu scandaleuse, le maître loua la prudence de son gérant malhonnête. Et dans d'autres traductions, le maître félicita le gérant malhonnête d'avoir agi habilement. Et une autre traduction, la semeur, le maître admira l'habileté du gérant malhonnête. Et c'est là le point d'inconfort dans ce parabole, que dans cette parabole, au lieu de le livrer au fisc, à certains de nos, hein, non, pas, oui, c'est quand même, hein, il a fait des malversations sur la TVA aussi, hein. Bon, et pour usage de faux, abus de biens sociaux, abus de confiance, etc., se met à le louer, c'est-à-dire, littéralement, dans la langue originale, le grec, en dire du bien, admirer, féliciter. Et on est un petit peu gêné. Comment Jésus peut-il cautionner un tel comportement mafieux? Cette histoire devrait être interdite au moins de 12 ans. Je l'ai intitulée « Louange à un filou ». Vous savez, j'aime bien les titres. Mais il faut bien comprendre que toutes les malversations que cet homme a commises, il reste un intendant injuste, c'est-à-dire malhonnête, littéralement l'intendant de l'injustice. Et le maître, et donc Jésus quelque part, hein, disent du bien de l'intendant pour autre chose, il en dit du bien pour sa capacité à réagir à une situation donnée. Certains parlent de prudence, d'autres d'habileté. La pointe de la parabole. Quand on interprète une parabole, il faut en saisir la pointe, pas tous les détails. Ça, c'est une allégorie. Mais une parabole, c'est la pointe, le centre. La pointe de la parabole, la pointe de la flèche qui doit nous atteindre, c'est celle-là. La louange, l'habileté de cet homme à se sortir de ce mauvais pas. Et à ce niveau-là, Jésus va encore faire une comparaison, elle aussi un peu provocatrice. Il va comparer les enfants de la lumière avec ceux qui vivent dans le monde, ou pour ce monde. C'est pas pour séparer la planète entre deux, mais ceux qui vivent pour ce monde sont parfois, dit Jésus, beaucoup plus habiles, beaucoup plus prudents que ne le sont les enfants de lumière. Alors les enfants de lumière, ce seraient les disciples de Jésus, nous peut-être, qui ne sommes pas toujours des lumières, mais qui vivons, soi-disant, sous une lumière, celle de Dieu, celle de Christ, qui nous fait voir le monde un petit peu différemment, la vie un petit peu différemment. Mais en même temps, Jésus nous dit que quand on y regarde de plus près, il semble bien que les gens de ce siècle, à savoir l'intendant dans l'histoire et les parlementaires italiens, soient beaucoup plus prudents, avisés, sérieux, habiles dans leur domaine que ne le sont les enfants de lumière, soi-disant, ou les chrétiens, on va dire, dans la leur, c'est-à-dire dans leur vie de disciples de Christ, dans la vie, dans leur marche avec Dieu, dans leur vie chrétienne tout simplement. On dit tout très facilement que ce monde est pourri, mais Jésus nous dit que ce monde peut nous donner des leçons. J'ai lu dans un journal l'histoire, il y a bien longtemps, l'histoire d'un certain George Miller en Floride, qui a retourné une décharge entière pour retrouver son billet de loterie, qu'il avait jeté à la poubelle par erreur. Une décharge entière. Bon, faut dire que le billet perdu était un billet gagnant de 8 millions d'euros. Et pour cette somme, on veut bien retourner une dizaine de décharges en région PACA, mais quelle persévérance, quelle patience, quel engagement, quel don de soi pour un vulgaire billet de loterie et juste pour de l'argent, sale en plus, dans une déchetterie. Alors, quand on regarde les hommes et les femmes de ce monde s'activer pour plein de choses, pour donner leur vie, et donner leur vie pour le cinéma francophone, pour défendre partout dans le monde l'exception culturelle française, se battre bec et ongles pour avoir une équipe de foot en première division, on reste parfois sidéré pour leur consécration, leur engagement, leur habileté. Et puis quand on observe aussi tous les efforts quotidiens de nous tous en tant que citoyens pour tout simplement défendre notre sacro-saint pouvoir d'achat et tous nos droits, et on reproche, et je ne reproche rien à personne, mais on est en droit de s'interroger sur notre degré d'engagement ou de prudence en ce qui concerne notre trésor, notre capital, la vie éternelle, la vie avec Dieu, les relations qu'il veut avoir avec nous, comme Sylvie nous en a parlé. Oui, le monde où un filou peut nous donner la leçon. Et la leçon porte aujourd'hui, n'est-ce pas? Car nous savons tous que nous ne sommes pas aussi prudents, habiles, avisés dans ce domaine de la foi que nous pourrions l'être. Mais quand on parle de prudence, d'habileté, qu'est-ce qu'on dit exactement? De quoi s'agit-il? Et pour répondre à cette question, je vous invite à revenir à notre intendant de service, notre filou. En quoi est-il prudent? En quoi est-il habile? La réponse en trois mouvements. Le premier, il voit le problème et il analyse la situation. Le gérant se dit, que vais-je faire puisque le maître m'enlève la gestion de ses biens? Il se dit pas, écoutez, je vais m'en sortir comme d'habitude. Il n'est pas non plus paralysé dans ses pensées par la peur du retour du maître. Il analyse calmement la situation, mais avec énormément de sérieux, et toute sa réflexion et son action va démarrer sur la base de cette analyse réaliste de la situation. Je suis en train de vivre une crise sans précédent. La prudence, l'habileté, commence bien par cela, une analyse de la situation. Et quand on analyse la situation avec une intelligence renouvelée par la lumière de Dieu, on s'aperçoit que nous aussi, nous sommes dans un temps de crise. Nous vivons une crise sans précédent, et je ne parle pas de la crise financière, ou la crise morale, ou la crise écologique. Je parle de crise dans le sens du mot grec « krisis », qui veut dire « jugement ». Ce monde va finir par un jugement, et sous le jugement, et nous sommes dans ce monde-là, et il faut nous rendre compte que cette période de vie que nous vivons est critique, parce que sous un jugement. J'aime ce verset d'Éphésiens 5, 16 qui dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Les jours sont mauvais pas météorologiquement parlant, mais parce qu'ils sont courts. Les jours passent rapidement et au bout de ces jours, il faudra rendre des comptes au maître du temps. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un match contre le chrono. Vous savez, au basket, vous avez 45 secondes pour shooter au panier, sinon la balle change de camp. Et les meilleurs joueurs de la planète arrivent à shooter dans le buzzer, c'est-à-dire dans les dernières secondes. Et la situation est d'autant plus critique au basket comme dans la vie, c'est qu'à la fin du temps réglementaire, il faut faire les comptes des points. Il faut rendre des comptes aussi. Et cette idée de ne nous plaît pas beaucoup, et je vous prends par surprise en pleine vacances, le fait de rendre des comptes, mais Jésus la développe souvent. Dans la parabole des talents, Jésus raconte que un gérant ou un financier donne un capital à certaines personnes, des talents. Alors le talent, c'est une monnaie à l'époque. Ça ne veut pas dire talent, mais on pourrait l'interpréter comme étant des talents qu'il nous donne. Celle des mines, il y a un moment où le gestionnaire revient. Doit rendre des comptes, pardon, où le propriétaire revient. Et le gestionnaire doit rendre des comptes. Il arrive toujours un jour où le maître revient et pose des questions et c'est un moment critique. Qu'as-tu fait ? Je suis venu vers toi. Je t'ai cherché. Qu'as-tu fait ? Un moment critique, mais aussi un moment de grâce. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes sous la grâce. Mais il ne s'agit pas non plus de faire de la grâce, c'est-à-dire du pardon de Dieu teinté d'amour, un mélange d'amour et de pardon, c'est ma définition personnelle de la grâce, d'en faire une sorte de d'oreiller de paresse. Don't worry, be happy. Ouais. Nous aurons à rendre des comptes de ce que nous avons fait de cette grâce. Comme disait Dietrich Bonhoeffer, qui n'est pas une grâce à bon marché, mais une grâce qui a coûté le Fils bien-aimé. Et c'est important de pouvoir... En 2001, j'ai eu un petit congé sabbatique de 6 semaines. On a été en Amérique et j'ai pu suivre pendant 2 semaines à Pasadena, en Californie, tout près de Los Angeles, dans la faculté de théologie de Fuller, 2 semaines de renouveler son ministère et renouveler le ministre du culte. C'était super. On était une quinzaine de pasteurs, moi le seul francophone là. Et j'ai capté qu'il parlait beaucoup d'un mot que je ne connaissais pas, accountability. Et dans le mot accountability, il y a account, compte. Pas de traduction en français, juste le fait de rendre des comptes. On pourrait dire la redevabilité. Et ils en parlaient beaucoup parce que il semblait que c'était important pour de pouvoir survivre en tant que chrétien engagé, comme il l'était, avec ce principe-là. Et que c'était motivant aussi de vivre sur ce principe de la redevabilité. Je dois rendre des comptes, sous la grâce, mais je dois rendre des comptes. Il y a des risques avec ce principe. Celui de vivre sous la crainte, de se voir privé de liberté, celui de l'espionnage spirituel. Faites gaffe, car Big Brother is watching you, comme disait George Orwell. Des risques, mais pas des risques suffisants pour exclure ce principe biblique, franchement biblique, même christique, de notre vie, en l'intégrant à ce grand regard d'amour que Dieu porte sur nous en Jésus-Christ. Je veux me sentir redevable devant Dieu, devant les autres, non pas parce que Big Brother is watching me, mais parce que Christ a déjà tout accompli à la croix et qu'il me précède sur le chemin. Deuxième chose que notre filou fait, il anticipe, il prépare l'avenir. C'est intéressant de voir que le malhonnête, le commercial véreux, qui profite du bon temps, hein, qui s'en met plein les poches, tout d'un coup se met à se soucier de l'avenir. Peut-être parce qu'il est dans un temps critique. Un peu comme les parlementaires italiens, ils cherchent à protéger sa sortie, ils se disent pas, voilà, j'en ai bien profité, maintenant je laisse les choses me rattraper, aller à Jacques Est, les dés sont jetés, c'est fini, j'ai joué, j'ai perdu, tant pis. Non, ce type, il en veut encore. Il veut vivre l'avenir aussi bien, sinon mieux que le présent, et pour s'assurer un bel avenir, il va parasiter ses anciens débiteurs. La méthode est certainement à revoir, mais cet homme est prudent, habile, avisé, car il s'occupe de son avenir. Il est prudent dans ce sens-là, comme le mot prudent en allemand, je me lance, vorsichtig, celui qui voit devant. Sichtig, vor, devant. La prudence, c'est celle-là. Celui qui voit devant, il anticipe. Et pour retourner au grec du Nouveau Testament, le mot traduit par avisé ou habile, c'est le mot phronéo, là vous l'avez à l'infinitif, en grec, phronéo, qui veut dire réfléchir, avoir une activité intérieure. Et ce commercial véreux est un phronimos, il réfléchit, il rentre en lui-même, au verset 8. Il y en a d'autres dans la Bible, les cinq jeunes filles de Matthieu 25, quand Jésus parle de la fin des temps et de son retour, les cinq jeunes filles qui mettent de l'huile dans leur lampe pour accueillir l'époux sont appelées des phronimoi, parce que elles sont sages, hein, dans les traductions que nous avons. Avisées, prudentes, habiles. Et puis, il y a aussi l'homme qui bâtit sa maison sur le roc, dans Matthieu 7, hein, est un phronimos. Il est avisé, il est habile, il anticipe la tempête de sa vie. Par contre, il y en a un dans la Bible qui est pas du tout phronimos, qui est avec le A privatif grec, qui est aphrone, comme l'afro-jojo, l'aphrone, qui, vous savez, celui qui engrange ses richesses dans son grenier sans voir plus loin. C'est marrant, c'est intéressant cette histoire. Les phronéos dans la Bible. Les phronimos ou les aphrones? Sans réflexion, sans prudence. Oui, la Bible nous parle de ces gens qui ont le sens des choses qui comptent et d'autres qui n'ont pas le sens des choses qui comptent. Des gens qui voient bien et d'autres qui voient moins bien. Et je ne fais pas dans les lunettes, mais où en sommes-nous de notre vision des choses? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression de parfois me retrouver comme certains coureurs cyclistes au Tour de France qui pédalent le nez dans le guidon. Et ils pédalent de toute leur force, mais ils ne voient que leur guidon et peut-être leur mollet. Et ils se disent peut-être, ah, qu'est-ce que je pédale bien ? Ouh, mes mollets sont bien dessinés. Mais ils ne voient rien devant eux et ils ne savent plus pourquoi ils pédalent. Ils ne savent même plus dans quelle étape du Tour de France ils sont, ou même si c'est Paris-Roubaix ou la Flèche Wallonne, et dans quelle équipe ils sont, et qui est leur leader. Il y a une époque où il y avait toute une équipe cycliste, ils étaient avec leur leader, c'était Johan Museeuw à l'époque, mais ils ont mis 5 minutes à s'apercevoir que leur leader n'était plus dans le groupe, il était derrière. Et ils ont dû l'attendre 5 minutes pour pouvoir le porter, et ils ont perdu l'étape évidemment, et même le Tour de France. Johan Museeuw n'a jamais gagné le Tour de France. Et je m'aperçois que certaines semaines de ma vie, je suis le nez dans le guidon. Je pédale dans le guidon, je pédale dans la choucroute, comme on dit. Je pédale pas mal, mais je perds les perspectives. Je perds de vue pourquoi je fais les choses. Ce temps-ci, je pédale et je fais mes comptes pour la retraite. Lève la tête, Eric Mince, et regarde d'autres perspectives et je perds le sens quand je pédale le nez dans le guidon de ce qui est vraiment important, de ce qui compte vraiment. Je ne sais pas, je ne sais plus ce qui compte vraiment, mais je pédale. Et pour finir, je suis très fatigué et très désorienté. Et je ne pense pas que je sois le seul dans le peloton à pédaler le nez dans le guidon. Ça nous arrive à tous. Et le Seigneur nous invite à pédaler avec prudence, à anticiper sur l'avenir, à préparer le ciel de manière sensée, avec le sens des choses importantes, essentielles même. Faites-vous, dit Jésus dans son sermon sur la montagne, un trésor dans le ciel. Ça se fait pas en pédalant le nez dans le guidon, se préparer un trésor dans le ciel. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, nous dit Jésus aussi. Et puis, un dernier mot sur ce filou qui nous donne la leçon. Il voit le problème, il anticipe l'avenir et il se met en action. Là-dessus, après sa réflexion, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître et il leur fait une remise de dette. Il agit et il le fait assez vite en fonction de la crise qu'il est en train de vivre et parce qu'il tient à son avenir, il va réarranger sa vie et ses priorités, il va se mettre à regarder le présent non pas juste comme un lieu de jouissance, mais comme un terrain d'action et d'investissement. Fini de détourner l'argent du patron pour faire la fête avec les copains, je vais investir dans les anciens clients. Une troisième marque de la prudence, c'est cette capacité à investir dans le présent pour préparer l'avenir. Vous savez que dans les années 1930, un homme a investi $1 million dans le désert. Un vrai désert. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de ville proche, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Un vrai désert. Le désert du Nevada. Mais il avait une idée, une ville essentiellement dédiée au jeu de hasard. C'est la ville de Las Vegas qui a rapporté à son investisseur des milliards de dollars. Alors vous allez dire, quelle drôle d'illustration pour une prédication. C'est quand même dimanche matin, il nous parle de Las Vegas et il est en train de louer le type qui a investi dans Las Vegas, dans le désert. Mais on est dans la parabole, on est dans le côté provocateur, il y a des gens qui investissent sur le désert et nous. La comparaison à la fois choquante et motivante, ce que Jésus cherche, ce sont donc des investisseurs, des hommes et des femmes qui n'ont pas froid aux yeux et qui sont prêts à prendre des risques dans la vie et à investir ici et maintenant dans cette vie pour bien préparer l'autre. Car si j'ai bien compris en 40 ans de service chrétien et même plus, il semble bien que notre joie dans le Seigneur, Il semble bien que notre joie dans le Seigneur, quand nous serons avec lui, sera directement proportionnelle à la joie que nous aurons mise à investir pour lui dans cette vie. Il y a un lien entre ces deux vies, qui sont même imbriquées. Dieu recherche des investisseurs. Quel sera notre champ d'investissement? Le désert, l'immobilier, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle? On est prêt peut-être à investir, mais où exactement? Eh bien, Jésus termine la parabole et nous donne une piste d'investissement. Et avec cette... C'est un petit peu intriguant. Et moi, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, littéralement, en grec encore, le mammon d'injustice, le mammon, c'est le dieu de l'argent. C'est un peu méprisant. Le mammon d'injustice, utilisez-les, ces richesses entachées d'injustice, pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Un peu intriguant, mais on a là une application de la parabole. Ces richesses entachées d'injustice ou carrément injustes, Et encore une fois, c'est pas une dénonciation de l'argent d'un point de vue moral, mais c'est une expression courante de l'époque, les richesses injustes, qui veut simplement montrer le côté un peu bassement matériel de l'argent. On pourrait risquer la traduction suivante, le fric, le pognon, l'oseille, le flouze. C'est fou les noms pour l'argent. Vous avez du fric, eh bien, ce fric, investissez-le dans des choses qui comptent. Investissez-le dans des personnes, dans des relations. Faites-vous des amis avec votre fric en leur apportant quelque chose de différent, en donnant quelque chose de vous-même. Et j'ai lu cette publicité pour la société biblique finlandaise qui avait ça comme slogan, acheter une Bible pour un ami. Magnifique application de cette parabole de Jésus. Utiliser notre richesse injuste ou notre argent pour investir sur une personne, un ami, qui pourra lire la parole et être interpellé par elle. Des choses qui comptent. Investissez dans les relations avec l'argent, mais avec tout le reste aussi. Investissez tout dans les relations parce qu'au ciel, il n'y a que ça qui compte et qui comptera. Le ciel est un tissu de relations. Le ciel est une maison bleue qui nous attend, où Jésus nous prépare une place, où on joue de la guitare, où on a jeté la clé, pour citer Maxime Le Forestier, c'est une maison bleue. Il n'y a que les relations qui comptent dans cette maison bleue, celle avec le proprio de la maison, avec Dieu, celle aussi avec les colocataires, les uns avec les autres. Le ciel est un tissu de relations, et c'est pour ça qu'il faut investir aujourd'hui dans ces relations pour pouvoir se réjouir de ces relations au ciel. Ils vous accueilleront dans des demeures éternelles et pour l'éternité. Ce qui compte et ce qui comptera, ce sont les relations. Alors, dans notre pédalage forcené, l'homme prudent nous rappelle qu'il nous faut relever la tête pour regarder au ciel et se demander ce qui compte vraiment, ce qui est précieux, ce en quoi il vaut la peine d'investir, ce qui compte et qui comptera. On a commencé par le monde politique, on termine par celui des affaires avec une question. Où en êtes-vous dans vos investissements? Où en suis-je dans mes investissements? Dans quoi j'investis aujourd'hui? Sommes-nous prudents ou avisés dans la gestion de notre vie? Et la parabole de l'intendant malhonnête, du filou malhonnête, c'est un pléonasme, mais prudent est là pour nous interpeller, pour nous reprendre peut-être, pour nous encourager certainement à revenir à l'essentiel dans ces temps de crise, pour se saisir de la vie, la vraie, la vie avec Dieu et la vie de Dieu, par Jésus-Christ, par sa grâce et pour sa gloire. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parabole. Amen. Thank you.